5h sur Europe 1. Bon réveil.
Des collègues, profs de maths, de 3e, qui n'ont aucun élève en classe virtuelle proposé. Plus ils sont grands chez nous, et plus le décrochage est grand aussi.
Des professeurs soucieux avant de retrouver leurs élèves ce matin en classe. L'été paraît déjà tout proche après une année scolaire chamboulée. Un parti politique ébranlé après l'alliance avec La République En Marche en PACA. Les Républicains apparaissent très divisés. C'était aussi le but d'Emmanuel Macron. Et puis un premier procès pour Nordal Lelandais, celui du meurtre du caporal Arthur Noyer. Dès aujourd'hui, la personnalité de l'accusé sera étudiée de près.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec un nouvel agriculteur qui rejoint la bande ce matin. Nous serons dans le département de l'Aube. Bienvenue à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un mois d'absence entre vacances et cours en ligne et voilà les collégiens et lycéens de retour en classe. Cela se fera en demi-jauge dans les lycées ainsi que pour les 4e et 3e des départements où le virus circule le plus. Au-delà de l'aspect sanitaire se pose la question de l'enseignement. Où en sont les élèves aujourd'hui et comment mettre à profit les deux petits mois qu'il reste avant les vacances d'été?
À Strasbourg, des profs se sont réunis ce week-end devant le rectorat pour obtenir des réponses. Reportage de Mélina Fachin.
Dans cette assemblée de professeurs, tous appréhendent la fin de l'année scolaire. Les cours à distance ont augmenté les inégalités, estime Thomas, prof de PS dans un collège en REP.
J'ai des collègues, profs de maths de 3e, qui n'ont aucun élève en classe virtuelle proposé. Plus ils sont grands chez nous, et plus le décrochage est grand aussi. Au-delà des conditions sanitaires, c'est ça qu'on va avoir du mal à rattraper sur la fin d'année.
Les conditions sanitaires et le protocole renforcé interrogent au contraire Francis, prof d'histoire géo.
On se demande comment ça va se passer, si le protocole est respecté à la lettre, avec la fermeture d'une classe au premier cas positif. Pour les tests des élèves, ça reste l'inconnu.
L'inconnu pour Olivier, prof de SVT en 3e, c'est surtout le brevet fin juin.
Sur les écrits, ça va aller parce qu'on a fait des examens blancs, on en a fait deux, ils sont assez bien préparés. Le problème, ça va être sur l'oral. On aurait dû vraiment les préparer à cet exercice, on ne l'a pas fait. C'est une épreuve qui ne vont pas bien réussir, c'est sûr.
Et puis, au-delà de cette année scolaire, on pense déjà à la suivante, notamment à l'orientation pleine de points d'interrogation des jeunes qui terminent le collège dans 2 mois. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Du nouveau aujourd'hui pour nos déplacements qui ne sont plus limités à 10 km. On peut aussi à nouveau se rendre d'une région à l'autre. L'attestation disparaît en journée, mais elle demeure après 19h. Puisque le couvre-feu ne change pas d'horaire, ce sera dans un peu plus de 2 semaines.
Aux Antilles, depuis la semaine dernière, la vaccination est ouverte officiellement aux plus de 18 ans, sans critère de comorbidité. Tout adulte majeur peut maintenant recevoir son vaccin.
Oui, une pratique qui avait commencé peu à peu dans certains centres de vaccination, notamment au Lamentin, dans le centre de la Martinique, ouvert il y a un mois, vaccinodrome géré par les pompiers. Fanny Marceau est la correspondante d'Europe 1 sur l'île.
À tout juste 18 ans, Louis-Raphaël a reçu sa première dose il y a déjà un mois et revient aujourd'hui pour la seconde. Dans quelques mois, il partira faire ses études. Le vaccin le rassure.
Je pense que je ne vais pas le regretter normalement. Avec les passes sanitaires, si c'est mis en place en tout cas, avec le vaccin, je pourrais y aller et je pourrais sortir.
Elisabeth aussi tenait à se faire vacciner. À 41 ans, elle vient de recevoir sa seconde dose. À sa première piqûre, les vaccinations étaient pourtant officiellement réservées aux plus de 70 ans.
Il y avait des communications qui circulaient sur WhatsApp en disant en allant vacciner. Vaccinodrome, quel que soit votre âge, sans comorbidité, vous pouviez y aller. En arrivant, on nous laissait passer même sans comorbidité.
Si on a ouvert la vaccination aux jeunes aussi vite, c'est parce que les plus âgés ne se pressaient pas. Pour le docteur Daniel Vigé, médecin-chef adjoint des pompiers de Martinique, il était indispensable de les accueillir.
On a vu effectivement une croissance régulière du nombre de jeunes effectivement qui viennent. Et c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous intéresse? Un taux de couverture.
Grâce à cette ouverture à tous, la couverture vaccinale a triplé en un mois. Malgré tout, le taux de vaccination en Martinique reste 2 fois moins important que dans le reste du pays. Au Lamentin, Fanny Marceau, Europe 1.
C'est la petite bombe politique du week-end. L'alliance entre la liste des Républicains et celle de La République En Marche pour les élections régionales en région PACA a été officialisée hier par Jean Castex.
Oui, alors le président sortant LR, Renaud Muselier, est soutenu par cette majorité présidentielle. Conséquence directe, son parti lui retire l'investiture et ce n'est que le début d'une déflagration à droite. Les précisions d'Hélène Terzian.
Quand l'un pactise, d'autres se désolidarisent. L'alliance entre Renaud Muselier et la majorité, Julien Aubert n'en veut pas. Tête de liste LR dans le Vaucluse, il songe à retirer sa candidature.
Je suis fidèle à ce que j'ai toujours dit à mes électeurs. Je considère que la politique qui est menée par ce gouvernement ne va pas dans le bon sens. J'ai plein de divergences sur le fond. Et ce serait factice pour garder un fauteuil, de faire comme si on pouvait être ensemble à Marseille et s'opposer à Paris. C'est tout ce que les gens détestent et c'est ce qui nourrit d'ailleurs la désaffection démocratique.
Le séisme est local, mais certains redoutent une contagion au second tour dans d'autres régions, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, voire Grand Est. Damien Abad, chef de file des députés LR, craint les répercussions pour la présidentielle.
On ne peut pas faire de la confusion et de la collision avec La République En Marche, alors que l'objectif de la droite doit être de porter un candidat à l'élection présidentielle pour incarner une alternance à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Renaud Muselier le sait très bien, que cette alliance-là aura des conséquences au niveau national et qu'on ne peut pas vouloir à la fois l'investiture du Parti des Républicains et vouloir copiner avec La République En Marche.
Une stratégie de l'exécutif pour fracturer la droite républicaine, regrette un député LR, et organiser la recomposition politique pour 2022.
Et notez que celui qui est justement chez les Républicains, président de la commission d'investiture, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, donc dans cette région sud, sera au micro d'Europe 1 ce matin, invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Il est 5h06 sur Europe 1. Nordal Lelandais aux assises pour un premier procès à partir de ce matin, c'est à Chambéry.
Oui, lui qui est accusé d'avoir tué la petite Maëlys à la fin de l'été 2017, comparaît dans une autre affaire. C'était quelques mois plus tôt, le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et dès cet après-midi, la cour va scruter le parcours de Nordal Lelandais, 38 ans, avec les expertises des psychiatres, Marion Dubreuil.
Oui, d'après ses anciennes compagnes, Nordal Lelandais a une double personnalité, prévenant et manipulateur. De son expérience au sein de l'armée, Nordal Lelandais a conservé la méthode. Le trentenaire compartimente sa vie, deux téléphones portables, l'un pour ses relations sexuelles, l'autre pour sa famille et ses proches. La nuit du meurtre d'Arthur Noyer, l'accusé a d'ailleurs bien pris soin d'éteindre ses deux téléphones. Le mobile est à chercher du côté de la toute-puissance. Nordal Lelandais est intolérant à la frustration. Le 11 avril 2017, il a été conduit par deux partenaires sexuels. Le maître chien se rend donc à Chambéry avec une envie à assouvir, d'après les magistrats instructeurs. On le voit rôder sur les images de vidéosurveillance entre 23h et 3h du matin, à pied ou en voiture, lentement. Arthur Noyer est une proie vulnérable. Le jeune homme de 23 ans est fortement alcoolisé quand il croise sa route. Pourquoi est-il monté dans sa voiture? D'après un co-détenu à qui Nordal Lelandais s'est confié, c'est parce que le jeune homme de 23 ans a finalement refusé ses avances, qu'il l'a frappé à mort avec une pierre.
Marion Dubreuil, envoyée spéciale d'Europe 1 à Chambéry.
On le disait, les déplacements interrégionaux sont à nouveau possibles. La SNCF met d'ailleurs en vente aujourd'hui 5 millions de billets pour cet été à 39€ maximum et à 8€ même pour les moins de 12 ans.
Oui, d'ailleurs, les réservations se multiplient pour cet été, le train mais aussi les locations. Contrairement à d'habitude, les Français n'avaient pas bloqué leurs vacances d'été dès le mois de janvier, mais cette fois, ça y est, ils sont lancés, Carole Ferry.
Oui, il y a eu un peu de retard au démarrage en effet, mais ça y est, les résidences de tourisme se remplissent avec des séjours de plus de 2 semaines en moyenne. C'est plus que d'ordinaire. Du côté des locations de meublés, le taux de réservation est quasiment équivalent à 2019. C'est le cas par exemple pour Le Bon Coin, les Gîtes de France ou encore à Britel. Et selon son porte-parole Xavier Rousselot, on réserve plus que d'habitude cette année en France.
On était autrefois, avant la pandémie, avec des réservations qui étaient à 70% environ pour la France et 30% pour des séjours à l'étranger. En ce moment, on constate que les réservations se font à 90% pour la destination France.
Alors il est quasiment déjà trop tard pour les biens un peu rares, comme les grandes maisons avec piscine. Mais rien n'est perdu, puisqu'avec les conditions d'annulation plus souples cette année, il y aura sans doute des désistements quand les frontières vont s'ouvrir. À noter le succès plus modeste des campings. Ils enregistrent moitié moins de réservations qu'en 2019 pour cet été. Mais cela pourrait évoluer maintenant que les étrangers sont autorisés à revenir en France, munis d'un passeport sanitaire, à partir du 9 juin.
Les informations de Carole Ferry du service économie d'Europe 1 et le patron de Pierre et Vacances viendra nous donner ses chiffres tout à l'heure dans une petite demi-heure à 5h40.
Et puis nous voulions vous faire découvrir 47 Terres. Ce n'est pas une adresse, c'est un groupe musical de 3 amis d'enfance d'une 20aine d'années. Leurs chansons sont écoutées des millions de fois sur les plateformes en ligne. Ils viennent de sortir leur 2e album qui est déjà un carton. On va les découvrir avec Angèle Châtelier.
Au milieu d'un sommeil noir, si j'arrive pas à me barrer, vas-y réveille-moi. J'adore le soleil noir tant que la belle vie me guette et veille sur moi.
47 Terres n'est pas qu'un groupe de rappeurs.
On s'est mis à danser sans savoir le faire. On a libéré nos pensées sans savoir les termes.
Le trio vient de Bailly en Île-de-France et à la maison, leurs parents écoutaient du métal. Dans leurs oreilles, à eux, il y a autant du rock que de la pop. Justin Bieber, Vianney, Dua Lipa. C'est ce mélange des genres qui a fait leur succès.
On a commencé avec des freestyles, donc je comprends qu'on nous ait mis dans cette catégorie de rappeurs. Mais en fait, nous, ce qu'on aime faire, tu vois, dans l'album, là, par exemple, il y a un morceau Avec toi. C'est uniquement de la pop.
Avec toi.
fois j'ai remporté la victoire de ma vie.
Donc en fait, on n'est pas du tout dans une catégorie vraiment.
Et ça marche. Après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, leur premier album s'est vendu à 50 000 exemplaires. Leur concert affiche complet. Aussi parce que leurs paroles sont positives. Ici, ils nous invitent à réaliser nos rêves.
Tu verras que la vie est fêlée si tu veux vivre tes rêves. Alors c'est maintenant, vas-y, fais-le.
Leur rêve à eux de vivre de la musique s'est réalisé. Le nom de leur nouvel album, d'ailleurs, l'évoque Légende. Clin d'œil au concept de légende personnelle, qui consiste à trouver la destinée de sa vie.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Qu'est-ce qu'on attend pour briller ? Qu'est-ce que le temps nous
dit ? 47 heures, on va l'écouter en boucle, sans doute.
Ouais, qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Le déconfinement. voilà, c'est aujourd'hui. Merci.
Jusqu'à 19h.
Jusqu'à 19h, voilà, faut être un petit peu patient. François Geffrier pour le journal de 5h. Merci à vous. 5h11. Et Lénaïque Monnier pour les sports. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Avec à la une Lyon qui se relance en championnat et qui peut rêver à la Ligue des Champions.
Oui, succès des Lyonnais 3-2 hier à Monaco, concurrent direct de l'OL dans la course à l'Europe. Lyon qui est passé par toutes les couleurs. L'OL a été mené au score, réduit à 10, mais a tout de même trouvé les ressources grâce entre autres à Memphis Depay. De quoi rendre l'entraîneur Rudy Garcia fier de ses troupes.
Je suis satisfait de tout le monde et de mon capitaine en particulier. C'est vrai que l'égalisation change tout. Le match a changé d'âme à ce moment-là. Le doute s'est insinué dans les têtes de Monaco parce qu'on savait que de toute façon, avec la première période qu'on avait fait en coupe et le fait de les avoir fait déjouer, que si on arrivait de nouveau à reproduire ça, certainement que ça pouvait mettre le doute et que sur l'aspect psychologique, on pouvait prendre un avantage. C'est un peu ce qui s'est passé ce soir avec l'égalisation. Ouais. Non, il n'y a pas de soulagement. Il y a une envie féroce de finir sur le podium. Ce soir, on l'a démontré sur le terrain. Pendant 96 minutes, on a démontré qu'on avait envie de finir sur le podium. Puis je pense que sur ce qu'on monte cette saison, on le mérite, mais les trois autres équipes de devant aussi.
Rudy Garcia avec Stéphane Frangy au classement après 35 journées. Monaco reste troisième devant Lyon avec un petit point de plus seulement. L'ASM qui a sans doute dit adieu au titre puisque Lille et le PSG sont bien devant désormais. Le LOSC avec 76 points et Paris 75.
En Angleterre, Manchester City devra attendre avant d'être sacré.
Oui, les Citizens auraient pu être champions si Liverpool avait gagné sur le terrain du rival Manchester United. Or, cette rencontre a été reportée. Des supporters de United ont envahi le terrain d'Old Trafford, toujours très fâchés contre les dirigeants après l'épisode Super League. Manchester City ne sera donc pas champion d'Angleterre au moment de retrouver le PSG en Ligue des Champions demain soir.
Le chiffre du jour, c'est 6.
Comme le nombre de finales franco-françaises en Coupe d'Europe de rugby, exploit hier de La Rochelle, qui a battu la province du Leinster et qui retrouvera Toulouse en finale. Ce sera à Twickenham le 22 mai.
Allez, du cyclisme avec des nouvelles de Pierre Roland qui est au Rwanda.
Oui, pour se préparer au Dauphiné Libéré et au Tour de France, les paysages sont un peu différents, mais la course rwandaise est la plus relevée d'Afrique et ça grimpe pas mal aussi, d'où ce choix de Pierre Roland.
Le Tour du Rwanda est venu un peu comme une évidence pour préparer le Dauphiné, le Tour, voilà, avec des routes montagneuses, une course qui se déroule quasiment tout en altitude, entre 1500 et 2500 mètres. On m'a dit que du bien du Rwanda en termes de sécurité alimentaire, du Covid, de l'accueil de la population. C'est sûr que c'est un peu atypique comme préparation pour le Dauphiné, mais ça fait deux saisons où on n'est pas dans des schémas classiques.
Pierre Roland avec Axel May. Et puis en tennis, début du Masters 1000 à Madrid avec du public, 4800 spectateurs par session pour voir le maître des lieux, Raphaël Nadal, mais aussi quelques Français engagés dès aujourd'hui, Hugo Humbert, Jérémy Chardy ou encore Adrien Manarino.
Merci Lénaïque Monnier, à tout à l'heure. Allez, il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy et mon pari gagnant sera le 410 Hôtel Mystique. Certes, il reste sur deux disqualifications, mais elle ne reflète en aucun cas sa qualité et sa condition physique optimale affichée chaque matin à l'entraînement. Il trouve cet après-midi des conditions de course idéales pour refaire surface sur une piste en parfaite adéquation avec ses réelles aptitudes. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vichy, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 10, Hôtel Mystique.
C'est noté Thierry Léger, à tout à l'heure pour le Quintet.
Europe 1.
Il est 5h15 sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le 5-7 continue en direct avec toute l'équipe. On va tranquillement ouvrir les journaux dans un instant. Amblin, qu'est-ce que vous avez repéré ce matin dans la presse ?
Elles ont pris la pandémie de plein fouet, ont vu leurs tâches se multiplier sans directive claire. Parfois, elles font partie des oubliés du Covid, des voies les collégiens et lycéens revenir dans les établissements en demi-jauge. Aujourd'hui, ce sont les infirmières scolaires.
On en parle dans un instant. Et puis moi, je vous raconterai le miracle du parc Monceau à Paris. A tout de suite sur Europe 1.
Pain,
Sébastien Krebs.
Il est 5h16 sur Europe 1, première étape du déconfinement aujourd'hui avec la fin de la limite des 10 km. Pour se déplacer, la fin de l'attestation en journée, le couvre-feu, attention, reste bien fixé à 19h. Nordal Lelandais, soupçonné du meurtre de la petite Maëlys, est en procès à partir d'aujourd'hui. Dans une autre affaire, il est accusé d'avoir tué le caporal Arthur Noyer. La junte militaire au pouvoir au Tchad nomme un gouvernement de 40 membres, dont certains opposants au président Idriss Déby, mort il y a 2 semaines. Un ministère de la réconciliation nationale et du dialogue est notamment créé. Et puis il y aura des spectateurs à Roland-Garros, jauge limitée à 35% de la capacité des tribunes et à 1000 personnes maximum par cours. Le tournoi de tennis commence à la fin du mois. Europe 1 sera la radio officielle.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Déconfinement, donc étape numéro 1. C'est la une de la République du Centre, de la Voix du Nord. Le retour en classe très attendu dans l'Union de Reims. Mais beaucoup de questions sur la fin de cette année scolaire. Le bac 2021 dans la tourmente pour l'Alsace. Le casse-tête pour organiser les bacs blancs. À la une de l'éclair des Pyrénées. Le bac à rude épreuve pour la montagne. Dans Sud-Ouest, ce sont les restos qui sont déjà prêts à remettre le couvert. C'est pour dans une quinzaine de jours maintenant. Le procès de Nordal Lelandais est aussi à la une. Lelandais, tueur en série. La question barre la première page de la Dépêche du Midi. Va-t-il s'expliquer ? S'interroge le Dauphiné libéré. Quand aujourd'hui en France, je vous raconte ce matin les secrets d'un prédateur. Et puis la politique à la une avec cette alliance en région PACA entre macronistes et républicains. Muselier en marche, c'est dans la Provence. Le séisme à droite pour Nice matin. On s'arrête maintenant sur les 3 histoires qui nous ont interpellés ce matin. Et Omblin, on commence en ce jour de rentrée des classes avec donc l'inquiétude des infirmières scolaires.
Oui, les collégiens et les lycéens retournent dans leurs établissements aujourd'hui. Alors des cours en présentiel et en demi-groupe. Si beaucoup de questions accompagnent ce retour en classe des élèves, eh bien c'est le flou complet concernant les tâches des infirmières scolaires et la manière dont elles vont pouvoir les accomplir. Libération nous parle de ces invisibles de l'éducation nationale. Depuis des mois, elles passent leur temps à, je cite l'une d'elles, courir après le Covid et le marathon va s'intensifier avec l'arrivée des tests antigéniques dans les collèges, des tests salivaires et des autotests dans les lycées. Ça, c'est la grande nouveauté de cette reprise. À partir du 10 mai, les lycéens vont devoir eux-mêmes s'enfoncer les fameux écouvillons de 10 cm dans le nez. Alors concrètement, comment cela va se passer ? Les infirmières scolaires ne le savent pas parce qu'elles vont devoir se charger de ce protocole. Comment gérer des centaines d'adolescents avec ce test entre les mains ? Comment prendre en charge un cas positif ? Que faire ensuite des déchets ? Eh bien, pas de réponse pour le moment. Le 10 mai, ça commence. Les infirmiers et infirmières scolaires sont 7700 en France, surtout des femmes, pour 62 000 établissements. Et le quotidien a recueilli des témoignages de certaines d'entre elles qui voient donc leurs conditions de travail se dégrader depuis la pandémie avec des tâches en plus, comme la mise en place des protocoles sanitaires, les traçages des cas contacts, les appels aux parents, les élèves, ça défile dans le cabinet.
Et puis premier cas classe fermée, ça tourne parfois au casse-tête.
L'une d'elles dit qu'elle a reçu en une heure 17 élèves une fois. Le danger de cette situation, c'est de ne plus pouvoir accomplir l'essentiel de leur mission, des infirmières scolaires dépistées, les élèves en souffrance, les prendre en charge et faire de la prévention. Ce temps-là, eh bien, elles ne l'ont plus. À cela s'ajoute, disent-elles, le manque de personnel, aucun recrutement et l'absence de reconnaissance du métier par le gouvernement. Voilà, la fin d'année sera longue pour les infirmières scolaires. C'est l'histoire du jour dans Libération.
Ouais, je crois qu'elle va être longue pour tout le monde, cette fin d'année.
D'une manière générale, on est bien là. Eh oui.
Pour les élèves, pour les profs, pour les infirmières scolaires, pour les parents. Décidément, ça a été une année compliquée pour tout le monde. Voilà, c'est à lire dans Libération. Allez, une belle histoire, tiens, pour s'aérer un petit peu. C'est le Parisien qui nous la raconte et ça se passe au Parc Monceau. Vous savez, en plein Paris, on est dans le 8e arrondissement. Le miracle du Parc Monceau, voilà le titre que le journal a choisi pour nous raconter ce qui s'est passé mercredi dernier. Peter, un Américain de 53 ans, a fait un malaise cardiaque en plein footing. C'est ça, au lieu du footing, le Parc Monceau tourne en rond. Donc, il fait un malaise cardiaque. Et c'est une jeune femme de 24 ans qui lui a sauvé la vie. Elle s'appelle Marion, elle est pompier réserviste et elle était là par hasard dans le parc pour un cours de gym. Et quand elle a vu cet homme allongé sur un banc, elle a tout de suite réagi. C'est elle qui a commencé immédiatement le massage cardiaque, tout en demandant l'aide de tous les passants qui étaient autour pour aller chercher le défibrillateur, pour lui poser les patchs, etc. sur le corps. Résultat, le pouls est revenu avant même l'arrivée des pompiers. et l'homme était sauvé. Mais la belle histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque sa femme, Laurie, a ensuite tout fait pour retrouver cette jeune secouriste pendant 3 jours, sans relâche. Elle est allée voir le gardien du parc. Il n'avait pas son numéro, alors elle a collé des affiches dans le parc Monceau. Et surtout, elle a utilisé les réseaux sociaux, et c'est ça qui a marché. Son message a été repris 2400 fois. Il a reçu 13 000 likes, et plusieurs des passants qui étaient là et qui avaient donné un coup de main lui ont répondu, soulagés d'apprendre que son mari était bien vivant. Et ce sont les pompiers de Paris qui se sont saisis de l'histoire et qui ont retrouvé la fameuse réserviste Marion. Ils ont même organisé un rendez-vous. Ça s'est passé hier au parc Monceau, et la photo pleine d'émotion est à la une du cahier Île-de-France du Parisien. Il paraît que toute la famille américaine de Laurie et Peter veulent maintenant rencontrer
Marion pour
la remercier. Elle sera peut-être invitée aux États-Unis, qui sait. Voilà pour la belle histoire du jour, c'est dans le Parisien. Martin, qu'est-ce que vous avez lu ?
Eh bien moi ce matin je vais vous parler des cartes Pokémon. Alors je ne sais pas si c'est de votre génération, mais c'est de la mienne, hein, ces cartes qu'on s'échangeait dans la cour de récréation. Vous connaissez peut-être via vos enfants ou vos petits-enfants. Alors elles avaient plus ou moins disparu, hein, victimes des consoles de jeux, de YouTube, des réseaux sociaux aussi. Mais elles font depuis quelques semaines un retour en fanfare, puisqu'elles deviennent de véritables objets de collection. La semaine dernière, un YouTuber a dépensé 50 000 euros pour une boîte de cartes Pokémon, hein, un investissement rentabilisé depuis, puisqu'hier il a réuni près de 500 000 spectateurs lors de l'ouverture de la boîte, hein. 1,5 million de personnes sur YouTube pour découvrir les cartes qu'il a achetées. Ça paraît effectivement incroyable.
50 000 euros pour une boîte de cartes. C'est quoi, il y a quoi sur ces cartes? Juste les personnages.
Justement, c'est hier devant tous ses fans qu'il a montré quelles cartes il avait achetées. Et voilà, ça crée un engouement assez incroyable.
Ouais. Alors, comment on explique ce phénomène?
Alors, déjà, il n'y a pas que de ces youtubeurs, hein, qui ont lancé des émissions et même des chaînes spéciales qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Ça participe forcément à l'inflation. Mais il y a aussi un marché de collectionneurs purs et durs. C'est ce que raconte le commissaire-priseur Florian Bourget, interrogé par le Huffington Post. C'est lui qui a organisé la première vente aux enchères de cartes Pokémon. C'était en 2018. Et depuis, il constate l'explosion du marché, hein, d'une poignée de fans historiques. Ils sont désormais 100 000 dans l'Hexagone à s'arracher les cartes japonaises. Plus d'acheteurs, ça fait obligatoirement s'envoler les prix. Une carte vendue 500 euros il y a à peine 3 ans, se vend aujourd'hui 12 000 euros. Alors ces prix peuvent sembler dingues pour une carte de jeu, mais pour le commissaire-priseur, c'est avant tout un achat de passionné, comme pour une œuvre d'art. Un achat affectif aussi, hein, car beaucoup d'acheteurs sont de jeunes adultes qui ont grandi avec les cartes Pokémon. Allez, un record pour finir, Ombline et Sébastien, la carte la plus chère jamais vendue, vous avez une idée ?
50 000 euros.
C'est déjà beaucoup. Il y en a encore plus cher.
C'est beaucoup plus que ça.
Beaucoup plus.
Ouais, plus de 369 000 dollars, hein, plus de 300 000 euros.
C'est le prix du papier.
Mais c'est ça, on parle d'un bout de carton quand même.
Exactement. Ça me donne envie d'aller fouiller dans mes tiroirs pour voir s'il ne me reste pas une ou deux.
Oui, c'est ça. Et parce qu'on jouait avec. Alors, pardon, je ne suis pas de cette génération-là, mais on jouait avec ces cartes.
On se les échangeait, oui.
Elles
ont des valeurs.
Oui, c'est ça.
Selon le. Puis il y a le feu, il y a la flamme, il y a plein de choses.
D'accord.
Et l'ancienneté, il y a eu beaucoup de nouveaux Pokémon qui sont. Premières, celles d'il y a
95. Celles de 95.
Il y a 25 ans, c'est celle-là qui coûte le plus cher.
Et si elles sont restées dans le paquet,
indémodable, visiblement. Alors, ils avaient fait un retour, les Pokémon, avec le jeu sur téléphone portable aussi, il y a quelques années. Ça, voilà.
C'est vrai.
Ça revient. Décidément, la nostalgie n'a pas de prix. On le voit bien. Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour, 5h25.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans l'Aube ce matin avec un nouvel arrivant, dans la bande. Bonjour Baptiste Gatouya.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans les doigts dans l'assiette. Merci de rejoindre notre bande d'agriculteurs. Vous êtes installé à Diray-Saint-Pierre, précisément, pas très loin de Troyes, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. C'est à 20 km à l'ouest de Troyes, en pleine de champagne.
Alors, on va faire connaissance avec vous ce matin. Je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous faites sur votre exploitation ?
Eh bien, écoutez, je fais des grandes cultures, des céréales. Donc, j'ai 8 cultures sur mon exploitation. Notamment voilà des betteraves, du blé, du chanvre, de la luzerne pour le fourrage, des productions de semences, je multiplie des semences, et puis voilà je fais aussi un petit peu de yette pharmaceutique qui sert à fabriquer des médicaments. Voilà, j'ai essayé de diversifier au fur et à mesure mon exploitation.
Donc que des cultures, pas d'élevage chez vous ?
Non, j'ai arrêté l'élevage en 2008. Deux ans après mon installation.
Alors, je voyais que vous faites de l'agriculture raisonnée. Qu'est-ce que ça implique ?
Ça implique de pouvoir essayer d'optimiser et de réduire au maximum l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Donc on essaye au mieux d'ajuster, d'expérimenter de nouvelles techniques pour à la fois pouvoir utiliser des produits phytosanitaires, mais en essayant de réduire les doses au maximum.
Sans aller forcément vers des labels bio, pourquoi ? Parce que c'était peut-être trop lourd à gérer, trop contraignant ?
Oui, alors il y a l'aspect contrainte et puis moi je veux essayer de trouver la solution où on puisse continuer à maintenir un niveau de production suffisant sur l'exploitation et puis je pense qu'il y a une voie à trouver entre le bio et l'intensif qu'on peut avoir dans d'autres pays.
C'est la ferme familiale que vous avez vous-même reprise ou que vous avez créée?
Oui, alors j'ai repris derrière mon papa et ma maman. D'accord. Donc en 2006, après papa, puis maman est partie en 2015. Et puis avant, c'était mon grand-père, puis mon arrière-grand-père. Donc ça fait 4 générations qu'on exploite sur la commune de Dira-Saint-Pierre.
D'accord. Vous êtes aujourd'hui seul sur l'exploitation ou vous êtes plusieurs associés?
Alors en fait, je m'en suis tout seul installé sur l'exploitation, mais je travaille beaucoup en entraide avec mes collègues, c'est-à-dire qu'on est 3-4 à travailler vraiment beaucoup ensemble, à s'échanger de matériel, de la main-d'œuvre, à se donner des coups de main de temps en temps, ce qui permet de pas avoir à embaucher de salariés. Et puis là, depuis cette année, j'ai un collègue que là j'ai salarié un petit peu sur l'exploitation pour m'aider à me mettre à jour sur quelques travaux de l'exploitation.
Le blé, donc, la betterave, les grandes cultures, 240 hectares chez vous, ça doit quand même être du travail, hein, juste à deux, j'imagine. Où est-ce qu'on en est, là, en ce moment? Qu'est-ce qui vous occupe?
Alors là, on a fini toute la période de semis de plantation qu'on avait à faire. Donc, on les a finis il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Alors, on a ressemé quelques cultures suite au gel. Donc là, on est beaucoup sur de la surveillance de culture et puis de traitement s'il y a besoin. Donc là, justement, pour essayer d'optimiser au mieux, là, tout à l'heure, je vais, dans quelques minutes, j'ai partir, protéger mes cultures contre des champignons ou s'il y a quelques herbes qui sont pas très bonnes pour les cultures, pour éviter d'avoir une mauvaise qualité de grain, on va les désherber ou appliquer un fongicide sur les cultures.
Pas trop de soucis de manque d'eau chez vous?
Ça commence un petit peu, alors, quelques gouttes ce week-end, mais on va dire qu'il va falloir que ça commence à tomber cette semaine. Pour le moment, pour les grandes cultures, ça va encore, ça va pas trop souffrir, mais oui, ce serait bien qu'on ait un petit peu d'eau cette semaine.
Bon, je crois qu'il y en a un petit peu qui arrive, mais c'est Laurent Cabrol nous le dira mieux que moi. il est là, il arrive, Laurent Cabrol. Je vous remercie, Baptiste Gatouillat. À très bientôt. Vous serez avec nous régulièrement pour nous raconter votre quotidien sur l'exploitation dans les doigts, dans l'assiette. À bientôt, merci.
À bientôt, merci. Bonne journée.
Mais justement, parlons météo, c'est à vous Laurent Cabrol.
Oui, aujourd'hui ce sera une journée ensoleillée sur les 2/3 de la France, on peut dire les 2/3 de la France ce matin, et la moitié dans le courant de l'après-midi, c'est-à-dire toute la moitié sud sera sous le soleil, et la moitié nord sous des nuages avec quelques rayons de soleil. Nous en aurons ce type de nuages sur les littorales de la Manche, aux régions parisiennes, sur les régions Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, avec des vents de 60 km/h. Donc c'est une journée moitié nord, moitié sud. Les températures ce matin sont froides et même surprenantes ces températures. Moins 4 dans les Ardennes, moins 1 à Épinal, 1 à Colmar, 2 à Nantes, 3 à Lyon et 4 en banlieue parisienne, pas plus. Dans la journée, entre 14 et 18 degrés, ce sera notre moyenne nationale. Vous voyez qu'il fera encore bien frisquette.
Voilà, et puis vous nous direz avant 6h, Laurent, si nos agriculteurs peuvent attendre un peu d'eau dans les jours qui viennent. Restez avec nous, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Nous sommes prêts. Ça va être une épreuve supplémentaire, c'est évident. On attend que justice soit faite.
Les parents d'Arthur Noyer face au meurtrier présumé de leur fils, Nordal Lelandais, jugé à partir d'aujourd'hui à Chambéry. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion. Dans ce journal aussi, la première phase du déconfinement, ce lundi. Cette nouvelle tempête, à droite, après l'alliance en PACA entre les Républicains et La République en Marche. Et puis une finale 100% française en Coupe d'Europe de rugby. La Rochelle s'est qualifiée pour la première fois de son histoire hier et affrontera Toulouse le 22 mai prochain.
Après le journal, rué sur les réservations de vacances, les Français bien décidés à profiter du déconfinement et les professionnels du tourisme qui retrouvent le sourire. Les premiers chiffres avec le directeur général de Pierre et Vacances, Grégory Sion, dans 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
8 jours d'audience, une trentaine de témoins et une dizaine d'experts attendus à la barre. Le procès de Nordal Lelandais s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Savoie. L'ancien maître chien jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017. Il avait 23 ans.
Un procès que les parents de la victime attendaient. Jean-Luc Boujon les a rencontrés pour Europe 1.
Voilà 4 ans que les parents d'Arthur Noyer attendent d'être face à Nordal Lelandais. Le meurtrier de leur fils affirme que c'est involontairement qu'il a tué le jeune militaire en répondant à ses coups de poing, alors que celui-ci était ivre et agressif. Mais l'accusation et la famille sont persuadés que Lelandais était ce soir-là en mode chasseur, à la recherche d'une proie pour assouvir ses pulsions sexuelles. Face au refus du militaire, Lelandais l'aurait frappé à mort avant de se débarrasser du corps. Le père d'Arthur Noyer, Didier, est à la fois combatif et ému avant l'ouverture de ce procès.
Nous sommes prêts. Ça va être une épreuve supplémentaire, c'est évident. On attend que justice soit faite. Voilà, c'est tout.
Vous appréhendez de voir Nordal Lelandais ?
Pas du tout. Je n'appréhende pas de voir l'autre. Et j'espère que celui qui appréhende le plus, ce sera le bon.
Vous dites l'autre en parlant de Nordal Lelandais ?
Je dis depuis le début, je dis l'autre, oui, effectivement.
L'ombre de la petite Maëlys planera aussi sur ce procès. Les parents de la petite fille auraient voulu faire face à Lelandais, mais ils ont décidé de ne pas venir, afin de ne pas parasiter les audiences. Ils devront attendre l'an prochain, l'instruction de l'affaire Maëlys n'étant pas encore close. Chambéry, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Aux États-Unis, c'est un autre genre de procès qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Le géant Apple et ses pratiques dans le viseur de l'éditeur de jeux vidéo Epic Games, qui produit notamment Fortnite et qui dénonce les entraves à la concurrence pratiquées par la marque à la pomme, notamment sur son App Store.
L'assouplissement des restrictions sanitaires, ça y est, ça commence aujourd'hui. Fini désormais les restrictions de circulation.
Oui, plus de limite de 10 km pour les déplacements, plus besoin d'attestation en journée, mais le couvre-feu restant en vigueur dès 19h, elle reste indispensable pour circuler la nuit. Ce lundi, également, on voit le retour des collégiens en classe, sauf dans les 15 départements les plus touchés par le Covid. Là, ce sera en demi-jauge. Demi-classe aussi pour tous les lycéens français qui alterneront donc entre présentiel et cours à distance.
Et alors que l'étreinte se desserre, cette question qui émerge sur le port du masque en extérieur, c'est vrai qu'au soleil ça commence à tenir chaud, est-ce qu'on pourrait pas s'en passer ?
Eh bien demain par exemple, dans les Alpes-Maritimes, il ne sera plus obligatoire le masque dans les espaces verts et sur le littoral. Il faut dire, Victor Dolande, que les contaminations dehors sont rares.
Oui, presque inexistante même. Selon les différentes études, ces contaminations extérieures représenteraient entre 0,5 et 5 % de l'ensemble des cas. Pour Yves Kopiters, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles, l'obligation du masque à tout prix et à tout moment à l'extérieur n'a plus de sens.
Je pense que la population est prête à prendre ses responsabilités et être dans plutôt une dynamique de gestion des risques et pas à tout prix d'une gestion de la peur du virus à tout moment. Le grand public, nous tous, nous sommes capables de comprendre ça et capables de se dire, ah ben voilà, moi je me mets dans une situation à risque, donc je mets mon masque, j'applique les gestes barrières, et dans d'autres situations, ben fatalement, j'ai plus de liberté.
Mais ce bon sens ne veut pas dire qu'il faudrait abandonner le masque partout en extérieur. Pour les scientifiques, il y a 3 critères importants à retenir, la distance, la durée d'exposition à une personne non masquée, 15 minutes minimum, et l'intensité de l'exposition. Autrement dit, si vous êtes seul dans la rue, se couvrir le visage n'a pas beaucoup de sens. En revanche, dans des attroupements de population, dans des espaces très restreints, là, il faudra ressortir le masque.
Des attroupements justement ce week-end. Plusieurs fêtes sauvages interrompues par la police dans le quartier de Bercy, à Paris, mais aussi près de Dijon samedi soir. Environ 400 personnes y ont participé à cette fête sauvage, cette free party. L'organisateur présumé a été arrêté.
5h35 sur Europe 1, à un an de la présidentielle. Est-ce le début d'une recomposition politique ? Les Républicains et La République en marche côte à côte, alliance controversée hein, en région PACA, cette alliance finalisée ce week-end.
Oui, le sortant Renaud Muselier rejoint sur sa liste par la chef de file des marcheurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sophie Cluzel. La droite se déchire et la majorité, elle, assume, à l'image du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, invité du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1.
Vous savez, c'est dans notre ADN, on s'est engagé en 2017 derrière l'idée du dépassement politique. L'idée que des femmes, des hommes qui viennent d'horizons politiques différents ne sont pas prisonniers d'étiquettes politiques. C'est une nouvelle étape de dépassement, et d'ailleurs au niveau local, mais c'est aussi une nouvelle étape de clarification au niveau national pour les Républicains.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, les Républicains réuniront demain un conseil stratégique. Dès hier, le patron du parti a décidé de ne pas accorder l'investiture LR à Renaud Muselier.
Et le député Éric Ciotti sera tout à l'heure l'invité de Sonia Mabrouk à 8h. Ricard.
Une page qui se tourne à Béthune. 60 ans que l'on fabriquait des pneus dans cette ville du Pas-de-Calais. Une histoire qui prend fin aujourd'hui avec la fermeture officielle de l'usine Bridgestone.
Les 863 salariés recevront cette semaine leur lettre de licenciement. Pour les deux tiers d'entre eux, ce sera reclassement, reconversion ou recherche d'emploi. Reportage de Maximilien Carlier pour Europe 1.
Dernier passage tourniquet pour Damien, la cinquantaine. Il quitte l'usine avec son sac cabas rempli d'habits de travail.
Il y a une casquette de sécurité, un polaire, une veste. Ça, ça représente ma vie du boulot. Une fois que j'aurai digéré et que j'aurai entamé un nouveau processus de reconversion, et à ce moment-là, je les jetterai.
Sauf qu'avant, il faudra faire le deuil. 24 ans à Bridgestone, tout de même, une page se tourne.
C'est une entreprise qui a contribué à faire vivre ma famille. Mon père a travaillé là, mes deux frères.
Mais pour Damien, tout s'arrête. Donc, à 7 ans de la retraite, et pas le choix, il a fallu trouver autre chose.
Je vais faire une formation de boucher-charcutier. C'est un métier qui est très, très, très recherché dans le Pas-de-Calais. Donc, je me suis dit, il faut que je mette tous les atouts de mon côté à mon âge pour me reconvertir. Donc, je vais me diriger dans cette branche et pour avoir toutes les chances de pouvoir rebondir et terminer ma carrière.
Et même si ses salariés ont toujours du mal à encaisser le choc de la fermeture, tous admettent avoir été bien suivis, bien accompagnés, bien aidés par le cabinet de reclassement.
De ce côté-là, on peut dire qu'on n'a pas été jetés dehors à la rue comme des chiens.
Avec, selon les syndicats, un des plus gros plans de sauvegarde de l'industrie en France, prime de départ moyenne de 106 000 euros. Béthune, Maximilien Carlier, Europe 1.
Un peu moins d'une semaine après l'approbation de l'accord commercial entre l'Europe et le Royaume-Uni, des tensions toujours autour de la question de la pêche. Paris en a appelé hier à la Commission européenne après l'introduction par Londres de conditions non prévues, notamment sur le nombre de jours en mer.
Les sports, et ce sera donc une finale 100% française. La Coupe d'Europe de rugby opposera dans un peu moins de 3 semaines Toulouse à La Rochelle.
Les Maritimes qui se sont qualifiés hier face au Leinster. Axel May, ce sera la 6e fois de l'histoire de la compétition, que deux clubs hexagonaux s'affrontent en finale.
Oui, 6 ans après Toulon-Clermont, 6 ans aussi après la dernière victoire française en Coupe d'Europe, Toulouse et La Rochelle vont se disputer le titre européen. Les rouges et noirs sont ceux qui ont le plus d'expérience. Ils viseront en effet une 5e couronne, leur manager Hugo Mola.
La guerre des étoiles est lancée et j'espère qu'on aura la capacité à mettre la 5e étoile dans notre... Sur notre maillot.
En face, La Rochelle s'apprête à vivre sa première finale de la Grande Coupe d'Europe après avoir battu hier les Irlandais du Leinster. Quadruple vainqueur de l'épreuve dans une enceinte vide, huis clos sanitaire oblige, mais avec des supporters venus par centaines devant le stade. Le troisième ligne rochelais, Greg Aldrit.
Cette sensation de sentir la foule avec nous, c'est vrai que ça faisait un moment que ça nous manquait. C'est quelque chose d'énorme, une finale de Champions Cup, mais c'est pas assez quoi. On veut plus et on veut aller gagner ce titre.
Une finale qui aurait même dû être jouée en France, puisqu'initialement c'est la ville de Marseille qui devait l'accueillir, avant que les restrictions sanitaires ne contraignent les organisateurs de la Coupe d'Europe à la déplacer à Twickenham, où jusqu'à 10 000 spectateurs seront en principe autorisés le 22 mai.
Ce rendez-vous-là est fixé du 30 mai au 13 juin. Et à Roland-Garros cette année, il y aura bien des spectateurs. 1000 personnes maximum par cours et un tiers de capacité. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre des Sports, Jean-Michel Blanquer, Europe 1. On le rappelle, radio officielle de Roland-Garros.
Le journal cinéma Rion Calais sur Europe 1. Il est 5h39. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
Direction l'hippodrome de Vichy, dont ce sera d'ailleurs la réouverture pour ce quintet. Une course au trot attelé qui réunira 16 partants répartis sur 2 poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Les numéros 16, Élise Cabéry, et 15, Evita Perron. Les deux juments les plus riches de ce quintet et certainement les plus titrés auront ma préférence. Je sais qu'elles ont été préparées en vue de cet objectif et comme elles se sont déjà imposées sur cet hippodrome de Vichy, je crois que l'on peut leur accorder ici un très large crédit. On leur opposera les numéros 8, Ribaud, confié au crack driver Eric Raffin, 14, Holly Rolls, pour lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse, et 11, Diamant Rose, idéalement placé juste à la limite du recul des 25 mètres. Enfin, les numéros 3, Rockitilly, 5, Denzo de Guèze et 7, Donzella Bella compléteront ma sélection. Mon pronostic, 16, 15, 8, 14, 11, 3, 5 et 7.
C'est noté, merci Thierry Léger. Tous vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h20, ça y est, nous sommes donc tous libérés. Dès ce matin, dans nos déplacements, plus d'attestations, en tout cas en journée, plus de limites kilométriques. Et les ponts du mois de mai arrivent, ce qui va permettre à beaucoup d'aller prendre l'air un peu partout. Bonjour Grégory Sion.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être le premier invité du 5-7 ce matin. Vous êtes le directeur général de Pierre et Vacances. C'est la ruée sur les départs en week-end pour les prochaines semaines, vous le constatez ?
Alors oui, on constate un afflux très important de réservations, à la fois pour les ponts de mai, où on voit en fait 200% de croissance par rapport à l'année 2019, mais également pour l'été, où enfin les Français se projettent et ont enfin un calendrier en tête. Donc c'est des très bonnes nouvelles pour le tourisme en France.
Alors si on regarde peut-être d'abord le mois de mai, plus 200% par rapport à il y a deux ans, donc par rapport à une année normale.
Exactement, c'est par colossal. Rapport à la dernière année sans Covid.
Ça veut dire que tout le monde a repoussé aussi peut-être des projets de vacances qui étaient peut-être prévus pour le mois d'avril.
Je pense qu'il y a un effet à la fois, les gens ont envie de partir en vacances, ils ont maintenant une date, ils ont réellement envie de découvrir ou de redécouvrir les régions françaises. Donc il y a un afflux massif de dernière minute, donc ce qui est une très bonne nouvelle à la fois pour Pierre et Vacances, mais également pour l'ensemble du tourisme en France.
Et j'imagine que pour tout le secteur, c'est extrêmement important d'avoir ce pont de l'Ascension qui arrive, peut-être le lundi de Pentecôte aussi, pour rattraper ce que vous avez perdu pendant les vacances de Pâques.
En fait, oui, c'est une très bonne nouvelle, on voit une très bonne dynamique, on voit que les vacances, c'est quelque chose de très important, le soleil est de retour, mai, juin, juillet, août, on espère de très bonnes nouvelles.
Quelles sont les tendances ? Ce sont de courts séjours de week-end ou il y a quand même des semaines complètes qui sont réservées ?
Alors on voit les deux en fait. On a à la fois des gens qui partent sur un pont rallongé. Également, je pense avec les congés payés qui ont été accumulés et potentiellement jusque fin mai, on voit également une augmentation des séjours longs d'une semaine ou plus, à la fois sur mai, juillet et août. Donc tout ça, c'est des très bonnes nouvelles.
Quelles sont les destinations les plus prisées ?
Alors, on retrouve en fait les destinations traditionnelles, donc de bord de mer, Normandie, Bretagne, la Méditerranée, le Sud-Ouest. Ça, c'est pour les ponts de mai. On a les mêmes destinations pour les vacances d'été, juillet-août. Et on a en fait une destination pour juillet-août qui émerge, c'est la montagne. À la fois, je pense peut-être parce que les Français n'ont pas pu partir à la montagne cet hiver, et aussi parce que ils ont envie de retrouver la nature, l'authenticité des grands espaces, et je pense que la montagne s'y prête très bien.
Alors justement, si on parle de l'été, vous avez senti une forme de top départ là au moment des annonces du gouvernement. Ça y est, tout le monde se lance dans ses projets pour l'été.
Alors c'est parti. On est sur des niveaux de croissance pareils par rapport à 2019, où on est sur des taux de croissance de l'ordre de 40% à la fois sur juillet et août. Donc on va dire que c'est pareil, comme les ponts de mai, une très bonne nouvelle.
Vous en êtes où aujourd'hui à quel taux de réservation dans vos différentes résidences ?
Par rapport à l'année 2019, on est revenu sur des taux très positifs en termes de taux de remplissage. On attend en fait, comme l'année dernière d'ailleurs, un très bon été à la fois sur juillet et août. Ce qui est d'ailleurs très intéressant à date, c'est de voir que les Français en fait se déconfinent et se projettent sur les vacances de juillet et août, mais on a un afflux de réservations plus sur juillet que sur août, ce qui est relativement atypique. Je pense qu'en fait, les gens sont en train de se mettre en route pour les vacances, mais se projettent à un horizon relativement court. Je pense qu'il y a d'ailleurs des Aoussiens qui vont partir en juillet. Le manque de vacances se fait sentir, et d'où les tendances très très fortes sur juillet.
Et vous vous attendez, s'agissant des touristes français, à un été plutôt franco-français comme l'année dernière, avec des Français qui vont majoritairement rester en France ?
Oui, on s'attend à en fait assez peu de clients internationaux, des clients français qui, devant les incertitudes par rapport à la mobilité dans les autres pays, vont rester en France, redécouvrir ou découvrir les régions françaises. C'est une des plus belles destinations au monde. Je pense que ce sera de très bonnes vacances pour Pierre et Vacances, pour nos confrères et également pour les Français qui vont pouvoir profiter de ce déconfinement dans des très belles régions.
Ça veut dire que vous ne constatez pas encore d'arrivées, de réservations venues de touristes étrangers qui, pourtant, ça y est, vont avoir le droit de venir en France avec ce passeport sanitaire à partir du mois de juin ?
Alors, on voit en fait des arrivées à la fois Belgique, Pays-Bas, Allemagne, un petit peu d'Angleterre. Ça reste relativement limité. Je pense qu'il y a encore quelques incertitudes. Et je pense que les Français sont en très grand nombre, donc on va d'abord voir, je pense, une grande majorité de Français sur nos destinations.
Vous rouvrez partout dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura des mesures sanitaires particulières ? Est-ce qu'il y a des jauges, par exemple, à limiter dans vos résidences ?
Alors, on rouvre 72 résidences le 7 mai. Globalement, l'ensemble de nos résidences, 160, sera ouvert mi-mai. Et on applique l'ensemble des protocoles sanitaires qui ont été définis par le gouvernement. Et on a travaillé avec des acteurs spécialisés pour s'assurer qu'on puisse avoir des normes qui rassurent nos clients, qui leur permettent de passer de très bonnes vacances en toute sérénité et surtout en essayant de s'assurer que l'ensemble de ces protocoles n'impactent pas négativement leurs vacances. Donc on a pu, l'année dernière, mettre tout ça en place et on va maintenant, nos équipes sont formées, opérationnelles, et elles attendent avec impatience nos clients pour les prochaines semaines.
Pour l'été, vous proposez des conditions particulières? Est-ce que ces séjours sont annulables au cas où il y aurait du changement ou au cas où la situation, le pire des scénarios, pourrait se dégrader?
C'est une très bonne question. Nos clients nous demandent beaucoup de flexibilité. Donc on a pu mettre en place des tarifs et une flexibilité qui leur permet d'annuler jusqu'à la dernière minute. Et en cas de Covid, s'il y avait un confinement, il serait évidemment remboursé, il pourrait annuler sans aucune condition. On est très confiant sur cet été, on ne doute pas que ça se passera bien, mais on veut rassurer nos clients dans le cas où il y aurait un rebondissement.
Voilà, on peut réserver du coup sans risque. On entendait ces derniers jours certains patrons du secteur de la restauration ou du tourisme lancer des appels au recrutement et s'inquiétaient du fait que les saisonniers pourraient manquer. Est-ce que vous êtes aussi en cours de recrutement, voire en difficulté pour trouver les effectifs?
Alors, on va dire que c'est un point important. Donc, on travaille depuis 15 jours pour sécuriser les saisonniers avec lesquels on travaille depuis longtemps. On a la chance d'être une entreprise qui a plus de 50 ans. Donc, on a des saisonniers qui travaillent dans la durée avec nous. Donc, on a sécurisé l'ensemble de nos saisonniers pour la saison. Et par contre, on a encore des saisonniers à trouver dans quelques destinations. Donc, on travaille d'arrache-pied avec nos équipes pour s'assurer que nos clients puissent passer de très bonnes vacances. C'est ce qui va nous occuper sur les prochaines semaines.
Combien d'emplois pour les différentes résidences que vous gérez?
On est en fait à peu près 1700 personnes à temps complet sur l'été. Donc, ça, c'est y compris les CDI. Donc, on a un nombre de saisonniers significatifs supérieur à 600 sur l'été.
Voilà, on se projette sur les vacances ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Europe 1.
5h48 sur Europe 1. Allez, on va continuer de voyager en France à la recherche des petites perles, des belles initiatives qu'on repère chaque matin avec vous, Lénaïque Monnier. Où est-ce qu'on va aujourd'hui?
On va à Roubaix avec un concept malin qui va intéresser notamment les jeunes parents. Un chariot, une planche à roulettes de marchandises pour transporter les plus petits en toute sécurité.
Les Français ont des idées. C'est la France bouge et c'est à suivre sur Europe 1. Bon réveil, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h49 sur Europe 1, c'est la première des quatre étapes du déconfinement. Retour en classe aujourd'hui pour les collégiens, ce sera en alternance avec les cours à la maison pour les lycéens. C'est aujourd'hui aussi que prennent fin les restrictions de circulation. Plus de limites de 10 km, plus besoin non plus d'attestation en journée. Et alors que les Français, on en parlait, commencent à penser aux vacances et au pont du mois de mai, la SNCF met en vente à partir d'aujourd'hui 5 millions de billets à 39 €, valables jusqu'à la fin du mois d'août. Dans l'actualité aussi, la réunion du Conseil stratégique des Républicains prévu demain, le parti agité par l'alliance conclue en région PACA avec La République En Marche. Et puis le procès de Nordal-Lelandais, 8 jours d'audience, dès aujourd'hui devant les assises de Savoie. L'ancien militaire est jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
La France bouge avec ses initiatives qui peuvent changer le quotidien des Français un peu partout. Nous sommes donc à Roubaix ce matin, Lénaïque Monnier.
Oui, et si vous êtes parent, vous avez sans doute connu la galère de la poussette que l'on plie, que l'on déplie, qui coince les doigts et qui n'entre jamais dans le coffre. Eh bien ce matin, voici un moyen de transport alternatif. Un simple chariot, autrement dit une planche avec des roulettes, comme pour y poser des palettes avec des fruits et légumes. Sauf que là, on y adapte un cosy. Ce sont ces petites coques très sécurisées pour y installer les bébés. Tout est aux normes. Évidemment, il n'est pas question d'installer votre enfant comme un sac de pommes de terre. Le chariot a été conçu pour un usage quotidien. Plié, il peut être placé derrière le fauteuil passager d'une voiture et il entre aussi dans les mesures du bagage cabine pour l'avion.
Ah oui, donc effectivement, ça prend pas beaucoup de place. Et le concepteur a pensé à tout le monde finalement en inventant ce produit.
Oui, il voulait que chacun puisse l'utiliser, y compris des parents de petite taille et handicapés. Et il a donc créé ce chariot qui se règle à différentes hauteurs, très basses, standards comme les poussettes classiques ou beaucoup plus hautes et qui peut se manipuler d'une seule main. Le chariot poussette est éco-conçu, il est démontable et réparable pour éviter de jeter le produit ou de le remplacer. Il est circulaire, tout est fait à Roubaix, lieu où sont assemblées les pièces. Elles proviennent un petit peu partout d'Europe en grande majorité. Il est aussi solidaire parce qu'il a déjà un employé handicapé et qu'il compte bien créer de l'emploi dans l'inclusivité. Et en fait, ce projet à terme pourrait être déposé dans les aéroports par exemple ou dans les transports en commun quand on veut faire juste un tout petit bout de chemin et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter une très grosse poussette.
Voilà, on comprend que c'est une démarche globale, à la fois solidaire, écologique et
inclusive.
Innovante.
Et inclusive, ouais.
On va mettre peut-être le lien et la photo sur Twitter avec le hashtag Europe 1 pour qu'on se rende compte un peu à quoi ressemble ce chariot donc, du côté de Roubaix. Merci
c'est
à
ça.
Vous, Léna Hickmonnier. Et on va explorer à présent les réseaux sociaux comme chaque matin avec vous, Martin Lange.
Oui, et ce matin, je vais vous parler de l'accord entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle pour les élections régionales en PACA, En Marche qui retire sa liste, Renaud Muselier qui prend quelques macronistes sur la sienne. L'idée, faire barrage au RN alors que Thierry Mariani caracole en tête des sondages. Une stratégie très mal perçue chez les Républicains, le parti de Renaud Muselier. Un coup de poignard dans le dos, hein, écrit Éric Ciotti sur Twitter hier. Il sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux, ça. Hier, ça a été...
Tout à fait. D'abord, chez les responsables, hein, le parti a même retiré son investiture hier à Renaud Muselier, mais aussi chez les militants, hein, où le malaise est palpable. Renaud Muselier aurait voulu faire gagner la PACA au RN, qui ne s'y serait pas pris autrement. Cet accord est aberrant, se désole Robin, hein, c'est un responsable chez les jeunes républicains. Même son de cloche pour Florent, il fut un temps où les héritiers du gaullisme ne cherchaient pas à sauver leur place à grands coups de renoncement, écrit-il. Cette alliance va même faire sauter le pas à certains militants, hein, comme Pharos. C'est la première fois qu'après 55 ans de militantisme RPR, UMP puis LR, je vais voter RN et il n'est pas le seul. Hein. Dominique aussi ne votera pas pour les Républicains pour la première fois de sa vie et ils sont des dizaines désormais à le revendiquer sur Twitter.
Alors, c'est peut-être pour ça que les Républicains réfléchissent à investir une autre liste contre celle de Renaud Muselier qui n'a pas l'investiture. Du coup, on en parlera tout à l'heure dans le journal de 8h avec Mickaël Darmon, Éric Ciotti sur Europe 1 face à Sonia Mabrouk à 8h15. Alors, côté majorité, qu'est-ce que ça dit chez les militants LREM ?
Eh bien, là aussi, hein, il y a un certain malaise, car depuis maintenant 4 ans, Renaud Muselier s'affiche comme l'un des principaux opposants à Emmanuel Macron. Il y a encore deux petites semaines, hein, il annonçait en grande pompe vouloir commander 500 000 doses de vaccin russe, le fameux Sputnik V, contre l'avis du gouvernement, évidemment. Et ça, dans les rangs macronistes, hein, beaucoup s'en souviennent, à l'image du député de Paris, Hugues Granson. C'est au deuxième tour que se bâtit un fonds républicain, écrit-il lui aussi sur Twitter. Plus généralement, hein, c'est toute l'aile gauche du parti présidentiel qui est embarrassée par cet accord avec la droite.
Pas fini d'en parler de cette histoire d'alliance en région PACA. La question aussi, si ça se propagera à d'autres régions. Enfin, tout est ouvert. Quel impact ça peut avoir sur la présidentielle aussi. En tout cas, c'est un virage politique, un séisme même. C'est le titre de la une de Nice Matin, par exemple, ce matin dans la région. Martin Lange, qui surveille chaque matin les réseaux sociaux. Et vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat à 14h sur Europe 1 pour Ondelat raconte. Vous pouvez dès à présent écouter l'histoire du jour sur europe1.fr, l'histoire d'un assassinat en 2010, celui d'Arnaud Guise dans l'Orne, en Normandie. Un crime terriblement ordinaire. L'enquête sur cet assassinat racontée par Christophe Ondelat dès maintenant sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous chaque matin, des solutions positives pour l'environnement. Et on va aller au Canada ce matin. Vous nous emmenez au Canada où une municipalité a une démarche très particulière puisqu'elle vient de décider, pour défendre une rivière, bien de la traiter comme une personne à part entière.
C'est exact. Afin de pouvoir défendre les droits d'une rivière et pour lutter contre sa dégradation, en février dernier au Canada, la municipalité régionale a annoncé que la rivière MacPie aurait désormais le statut de personnalité juridique morale au même titre qu'une association ou entreprise, par exemple. Cette rivière était convoitée pour son potentiel hydroélectrique, mais grâce à ce statut juridique, on ne la touche pas. La rivière se voit dotée de 9 droits fondamentaux, dont par exemple le droit du respect de ses sites cycle naturel, le droit d'être préservé et protégé. Cette décision légale hors du commun implique aussi la désignation de gardiens qui auront la responsabilité de défendre la rivière MacPie en justice si ses droits étaient compromis. Ils pourront donc à la fois intenter des actions légales et réclamer des réparations et des compensations financières au seul bénéfice de la rivière.
Et ce nouveau type de reconnaissance juridique, ça offre une meilleure protection, meilleure même que les classements en espace naturel ?
Alors oui, ce que je veux dire en fait, c'est que personnifier la nature est ce qui se rapproche le plus de la panacée. Pour l'instant, dans le monde, on se contente le plus souvent de reconnaissance de la nature comme patrimoine commun. Mais ce système a ses limites, car c'est alors l'État qui est garant de la nature, selon les termes qu'il a lui-même définis. Or, de nombreux intérêts divergents traversent les États. La préservation de la nature entre souvent en conflit avec la pérennité économique et l'État se retrouve alors à devoir réparer des dégâts qu'il avait le pouvoir d'empêcher.
Alors, on parlait de l'exemple de cette rivière au Canada. Fanny, que font les autres pays là-dessus ?
Eh bien, il y a de nombreux pays qui pratiquent de plus en plus la personnification juridique. Pour des rivières, mais aussi des montagnes ou des forêts, comme en Bolivie, Nouvelle-Zélande, Colombie, en Inde ou au Mexique, l'Équateur allant même jusqu'à l'inscrire dans sa constitution. Cela permet au lieu personnifié le droit d'empêcher des projets industriels. Le trait commun à tous ces lieux devenus personnes morales, c'est la présence de peuples autochtones qui ont milité pour que les écosystèmes soient reconnus, des peuples chez lesquels il n'y a parfois pas de mots pour décrire la nature, bien souvent parce qu'ils ne s'en dissocient pas.
Voilà, des rivières, des montagnes, des forêts dotées de personnalités juridiques pour mieux les protéger. Merci à vous, Fanny Agostini, notre planète.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.